citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Salut Sébastien.
Salut Charles.
Comment vas-tu?
Ça va bien, premier jour du printemps.
Oui, youpi, célébrons.
Mais hein, après l'hiver, le mois de février d'ailleurs, notamment rigoureux qu'on a eu, ça fait du bien.
Oui, tout à fait. Donc, on commençait avec une mauvaise nouvelle. En tout cas, moi, ça vient me chercher, ça me fait de quoi? L'abbé, la fin, pour ce grand magasin, cette grande compagnie, après 355 années d'histoire. Donc, entre autres, on se pose la question, magnifique immeuble en pierre rouge du centre-ville de Montréal, quel est son avenir? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet immeuble-là?
On savait quand même depuis un certain temps que l'abbé connaissait des difficultés, mais là on voit un peu le portrait. Là on parlait d'une dette qui frôle le milliard de dollars, 950 millions. Faut se rappeler que cette entreprise-là, on l'associe beaucoup au Canada, mais depuis 2008, elle appartient à une société immobilière américaine.
Tout à fait, ouais.
NRDC Equity Partners. Donc, ce qu'on apprend, c'est ça. On est rendu au bord de la faillite. Là, faut rappeler que l'abbé d'Hudson, c'est quand même 80 magasins au pays, dont 13 au Québec, dont l'emblématique immeuble du centre-ville de Montréal, où j'ai déjà été magasiné. J'avais des réunions dans l'immeuble de l'autre côté de la rue, puis quand j'arrivais d'avance, j'avais le temps, j'allais me promener, puis j'allais acheter des choses. C'est quand même 9400 employés qui sont à risque de qui vont perdre leur emploi fort probablement.
Un autre, là, évidemment, pas qu'à Montréal, là, pas que dans l'immeuble de la rue Sainte-Catherine. Mais j'y suis retourné, moi, il y a quelques mois. En septembre, je pense. Mm-hmm. Et à ma grande surprise, il y avait bien des départements de fermés.
Ça qu'on disait. On interview du monde depuis quelques jours, des clients, pis ça, pis on dit que les escaliers roulants fonctionnaient souvent pas. Il y avait un manque d'entretien, puis on sentait que ça s'en allait un petit peu chez le diable. Mais c'est préoccupant, je trouve, parce que, on a Archambault dans l'Est, un autre monument qui a fermé il y a quelques
temps. Tout à fait.
Et là, on interviewait le directeur général de Montréal Centre-Ville, M. Castanera. Puis lui, il dit éviter un deuxième Simpson, parce que rappelons-nous, le grand magasin Simpson, à une certaine époque, qui a fermé ses portes aussi. Ouais. D'ailleurs, a été un des premiers grands magasins à fermer ses portes, à déclencher cette série de fermetures.
Au début des années 90, dans ce coin-là.
Oui, c'est ça. Ça a pris 10 ans avant de trouver quelqu'un pour occuper l'immeuble.
Ouais.
Donc, on parle d'éviter un deuxième Simpson. Je ne sais pas ce qui va advenir de cet immeuble-là. C'est sûr que c'est patrimonial. On ne peut pas mettre le boule là-dedans et dire on fait d'autres choses. C'est impensable. Mais ça me surprendrait. T'sais, l'ère des grands magasins à rayons comme ça, c'est terminé. Je veux dire, ça coûte tellement cher en coût fixe, en loyer, en salaire, en inventaire à tenir. Ça n'a pas de sens. Le modèle ne tient plus. On a encore Simons qui réussit à tirer.
Oui, mais encore là, spécialise dans le vêtement, puis c'est deux étages là aussi.
Exactement. C'est plus des affaires à 6 étages, puis on vend de tout et de rien.
Un peu de tout, puis je pense aussi que le modèle, ce qui est arrivé aussi, Eaton a payé cher. Là. On n'est pas allé assez rapidement sur le web. Donc, le tournant, on ne l'a pas pris.
Absolument.
Et puis, l'abbé vivait un peu la même affaire différemment, mais on a vécu sur du temps emprunté par la suite, je pense.
Oui, absolument. Puis là, on arrive à la fin. Écoute, 350 ans d'histoire, c'est pas rien. J'ai hâte de voir. En tout cas, faut trouver un plan réaliste pour cet immeuble-là. Est-ce que ça va être partie condo, partie commerciale? Je sais pas. C'est sûr que il faut faire quelque chose là, avec cette bâtisse-là.
Oui, il y a quand même un beau potentiel là, au rez-de-chaussée, là, bien sûr.
Ouais.
Puis, par la suite, les étages supérieurs, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire, effectivement.
Mais il faut voir aussi, parce que l'état du centre-ville ne va pas super bien au centre-ville. Beaucoup de travaux, beaucoup de télétravail. Déjà, les bureaux sont en bonne partie encore vides.
Ouais.
Je vais y arriver avec mon deuxième point, mais je lisais ce matin dans un article de Maxime Bergeron qui fait état du discours que M. Fadi Daguerre a livré à la Chambre de commerce hier midi sur l'état du centre-ville. Et c'est rien de reluisant. Là, c'est rien pour nous rassurer. Là. Ça va pas bien. Il
ouais.
faut pas pleurer, ça ne va pas bien.
Ouais.
Alors, tu sais, cet immeuble-là se vide à un moment où on on peut pas dire que le centre-ville est à son apogée.
Oui, non, c'est donc fin des grands magasins, il y a de quoi. Puis il n'y a pas qu'au centre-ville. Y a, évidemment, nous, il y a Brossard, puis il y a Saint-Bruno à côté. Je pense qu'il y avait y a ça aussi, ces grands magasins-là étaient moins fréquentés aussi. Puis ça coûte cher, louer de l'espace.
Absolument, ça coûte cher. Puis, par contre, prends le Maire Champlain, prends Saint-Bruno. On peut pas juste mettre un boule là-dedans pour commencer. Là. Il faut... T'sais, je regarde même chez nous, à Boucherville, les promenades de Montarville, c'est un centre commercial beaucoup plus petit, mais la moitié des locaux sont vides depuis un bon moment. L'assurance-là, c'est déprimant.
C'est le cas de bien des centres commerciaux, là, aussi,
absolument,
là, au Québec.
Absolument.
Ouais, enfin, ben, on va regarder ça, évidemment. Je sais pas si, par contre, tu te souviens à l'époque où Eaton a fermé, puis on peut terminer là-dessus, là, tu te souviens quand Eaton a fermé, on nous disait que le Eaton du centre-ville faisait ses frais. Était rentable. Et les magasins des grandes villes un peu partout au Canada étaient rentables. C'est vraiment dans les centres commerciaux où ça ne marchait pas.
Et depuis, on a le commerce en ligne qui a gagné beaucoup
aussi, de terrain. Évidemment, avec la pandémie, ben, ça a activé l'affaire, ça a vitaminé l'affaire.
Absolument.
Ouais. Enfin, Luc Rabouin, élu chef de Projet Montréal, et affrontera Soraya Martinez, donc Mme Soraya Martinez d'Ensemble Montréal. Vraies élections municipale pour une première fois depuis 2009.
Ben, je cite Michel COG. J'ai trouvé intéressant son billet hier dans la presse. Il disait que c'est la première fois depuis 2009 qu'on aura de vraies élections, dans le sens que ça ne sera pas un référendum sur M. Denis Coderre. J'ai trouvé ça intéressant. Rappelons les choses. En 2013, donc M. Coderre a remporté la mairie. Il avait remporté avec 32,1%. C'était une lutte à quatre. Et puis, on se rappellera donc qu'en 2017, Mme Plante est arrivée dans le portrait. Monsieur Coderre, vraisemblablement, ne l'a pas prise au sérieux. Il était convaincu qu'il remporterait une victoire. Donc, malheureusement pour lui, il a perdu. Et puis, il a voulu prendre sa revanche en 2021 et il a mordu la poussière une autre fois. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de la façon que M. Auger l'a présenté. On aura l'actuel maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, anciennement le territoire de Luc Ferrandez. Donc, il va affronter l'ancienne ministre fédérale. Je me répète, mais c'est sûr que les enjeux sont énormes à Montréal. Les enjeux,
c'est Ferrada. Hein?
Oui, Ferrada, qu'on dit est une dame très rassembleuse.
Je l'ai dit deux fois en entrevue, c'est quelqu'un de très sérieux et de très documenté.
Oui. Bon, je pense que les deux candidats le sont à leur façon.
Tout à fait.
M. Rabouin, sûr, est dans la lignée de Projet Montréal, mais il se distance déjà de Mme Plante à certains égards. Il veut faire les choses différemment. C'est sûr que les enjeux sont majeurs. Là. Le portrait de Montréal a changé, ne serait-ce qu'au cours des quatre dernières années. Le phénomène de l'itinérance a gagné en importance. Bon, on sait qu'il y a des travaux d'infrastructure partout et c'est loin d'être terminé. Il y a des priorités à n'en plus finir sur l'île. Alors, c'est une élection importante qui se dessine à l'horizon. Et donc, c'est deux visions de Montréal qui vont s'affronter. J'ai hâte de voir si monsieur... faut le dire, hein, monsieur... Projet Montréal, sont très bien implantés. Comme parti, je veux dire, les finances sont saines, alors que madame, elle traîne. C'est le parti Ensemble Montréal, l'ancien parti de Nicodère, qui traîne encore une dette de 350 000. Donc, les finances sont moins saines de ce côté-là. Mais c'est quand même deux partis en bonne et due forme. Là. Donc, ça va être deux visions qui sont offertes aux Montréalais. Puis ça va être intéressant de voir ça avancer au fil des mois.
Puis je salue une candidature importante issue de l'immigration, parce que Montréal est une ville multiethnique. Donc, je salue cette affaire-là aussi.
Ouais. Absolument. Donc, ça va être intéressant de voir ça aller. Et puis, comme on dit que le meilleur gagne, mais c'est sûr que ça prend des plateformes électorales sérieuses, parce que les enjeux sont sérieux.
Oui, donc à suivre là aussi. On parle maintenant du PQ qui remporte la mise haut la main dans Terrebonne. La CAQ arrive bon deuxième.
Ouais.
Trois autres partis, dont le parti de M. Gabriel Nadeau-Dubois, entre autres, là, donc qui annoncera son départ de la vie politique aujourd'hui.
C'est sorti hier en fin de journée.
Progressif, là, oui.
Donc, moi, je fais toujours mon menu le mardi matin, ouais, d'habitude. Alors, c'était pas dans les cartes, mais je peux faire un parallèle. En effet, on saura aujourd'hui. Donc, M. Gabriel Nadeau-Dubois quitte son poste de co-porte-parole, va rester député, mais ne sollicitera pas un mandat en 2026. Donc, quand on regarde les résultats, je me demande, est-ce que c'est un présage de la générale qui s'en vient? Bon, le PQ a vraiment fait bien, 52-53%. La CAQ arrive loin, deuxième, autour de 28-29. Les autres, bien, écoute, le PLQ, c'est 8,2. Québec solidaire, 4,6. Et puis le Parti conservateur, 3,7. Ce qui est étonnant et déprimant d'apprendre, c'est que le soir même, lundi soir, la candidate solidaire était toute seule.
Ben
personne,
oui,
du parti qui est venu. Il n'y a pas un député qui s'est présenté. La co-porte-parole n'était pas sur place. Elle a dit qu'elle n'a pas eu d'aide de la campagne. Elle était laissée à elle-même. Je regarde le résultat. Je regarde la décision de Nadeau-Dubois de quitter. Est-ce qu'on est en train d'assister à la disparition de ce parti-là, de l'échiquier politique?
Tout le monde se pose la question aujourd'hui.
Parce que, tu sais, déjà, ça va pas bien depuis un bout. Monsieur, faut lui donner ça. Gabriel Nadeau-Dubois a voulu essayer de donner une certaine prestance, un sérieux à ce parti-là pour un parti de gouvernement, comme on dit. Il s'est fait rabrouer, il s'est fermé à sa place par le paratchet du parti. Puis là, ben, il annonce qu'il quitte. Bon, faut se rappeler qu'il a été en congé parental ces derniers mois, donc il y a eu du temps pour réfléchir. Je pense que sa décision, elle est réfléchie. Je pense pas que c'est un coup de tête, mais ça dit quoi pour l'avenir du parti? On peut se poser de sérieuses questions. Hein?
Ouais, Nadia Poirier, hein, la candidate de Québec solidaire.
Laissée elle-même, carrément.
Oui, donc la chicane est-tu pognée entre eux autres? Puis,
Eh boy, ils n'ont pas besoin d'une autre chicane. Je pense, ils n'ont pas le luxe de vivre une autre.
Il y en a eu quelques-unes, oui, tout à fait. Enfin, on va suivre ça, évidemment. Puis absolument, pour le reste, ben 37% de participation maintenant.
Oui, c'est une partielle.
Bon, évidemment, les libéraux, comme des bons libéraux, vont se réparer. Il y aura chef éventuellement. Oui,
mais je vais te dire, 8%, là, c'est pas, même pour Terrebonne, là, ça lance tout un, oui, message aux libéraux. Là, c'est, y a tout un travail à faire. Hein, peu importe si c'est Rodriguez qui est élu chef. Là. Mais là, le problème pour les libéraux, c'est qu'ils sont éclipsés partout, par Trump, par la guerre tarifaire, parce qu'on n'en parle pas de la course à la chefferie du PLQ. Hein.
Oui, non, ça c'est en juin aussi. Là, ils ont juste en avril.
Ça t'en vient.
11 avril pour la dernière, pour la mise en candidature, puis après ça, ben c'est en juin. Donc, à un moment donné, ils auront leur
on va voir,
leur
parce
minute de gloire.
Avec M. Trump, on ne sait jamais ce que la journée nous réserve.
Eh, misère, non.
Il est tranquille, là, de ce temps-ci.
Oui. Il jase avec Vladimir un petit peu.
Oui.
On termine ça, tiens, avec M. Carney, notre premier ministre en tournée, qui poursuit sa lancée. Il serait même en territoire majoritaire, selon certains sondeurs.
Ben oui, j'ai vu un sondage passer. Ben écoute, on est inondé de sondages, là, ça nous donne plein de chiffres, mais j'ai vu un sondage passer, puis malheureusement, j'ai pas pris le nom de la firme, mais il plaçait les libéraux à 177, donc en terrain majoritaire.
C'était Léger, Journal de Toronto. Là.
Et habituellement, Léger, sont pas pires, tu sais. Mais en tout cas, là, ça tourne autour, tu sais, on voit du 42, du 37.
Ouais.
Ce qui est inquiétant...
Léger National Post. Voilà.
Ah, c'est ça. Ouais. D'un sondage à l'autre, ce qui est inquiétant, c'est qu'on pose la question qui serait mieux placé dans un paquet d'affaires pour redresser l'économie, pour affronter Trump, pour ci, pour ça, pour ça. Puis c'est Carney qui remporte sur Poilievre. C'est quand même quelque chose. Ce gars-là est en politique depuis une semaine, même pas une semaine. Il est élu depuis plus d'une semaine, mais il est premier ministre nommé depuis moins d'une semaine. Et puis déjà, il rafle beaucoup d'affaires. Et j'écoutais encore, pas plus tard qu'hier, puis avant-hier, des pubs des conservateurs où Poilievre est là. Les libéraux de Carney Trudeau, il revient avec ce message-là qui ne résonne absolument plus auprès des gens. Trudeau n'est plus là, n'est plus dans le portrait. Je ne sais pas ce qu'il attend pour changer son message ou si ses stratèges lui disent, là, ça presse, il faut qu'on change de message. Mais tu sais, autant on le donnait gagnant pendant des mois et des mois et des mois, tant que Trudeau restait accroché, on disait, bon, mais habituez-vous, c'est Poilievre le prochain PM. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas. Puis moi, c'est sûr que je regarde ça aller. Personnellement, j'ai plus confiance, même si je ne le connais pas, là, un gars comme Carney, que Poilievre.
Ben, la feuille de
mais
route,
d'un autre côté,
la feuille de route parle aussi un peu. Là.
Oui, la feuille de route. Mais on verra ce qu'il va nous proposer comme aussi plateforme électorale aussi, puis comment il va performer en politique, dans le débat des chefs et tout ça. Mais c'est sûr que l'idée d'un quatrième gouvernement libéral consécutif, même si on va dire c'est un nouveau chef, ouais, c'est un nouveau chef, mais il y a bien des acteurs qui sont là depuis 2015, c'est quand même spécial. Là. C'est toute une conjoncture qu'on est en train de vivre sur la scène fédérale en raison de notre voisin du Sud. Parce que si Trump n'avait pas été dans le portrait, ouais. Le paysage canadien puis l'évolution de la scène politique fédérale depuis les dernières semaines, les derniers mois, aurait été très, très, très différent. Là.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on vit là.
Oui, tout à fait. Donc, un showstopper, comme on dirait.
Ah, mais ça.
On est ailleurs. Eh bien, on se parle la semaine prochaine.
Oui, certainement.
Merci, Sébastien Saint-François. Bye.